témoignages, échanges, discussions au réseau Cogeco. Voici Dan Bigra.
Salut tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous à Québec, Montréal, en Outaouais, en Mauricie, au Saguenay et en Estrie. Bienvenue à tout le monde. En deuxième heure, je vais vous demander comment vous vivez depuis la pandémie. On a tous changé nos habitudes de vie. Et puis, pour tout de suite, la question, c'est, on va parler de santé mentale parce qu'en période de COVID-19, est-ce qu'on va avoir assez de ressources pour aider ceux qui sont en détresse? Appelez-moi, j'ai envie qu'on jase au 514-790-9850 ou hors de la ville, sans frais, c'est le numéro 1-866-790-9850. Tout de suite, on reçoit le docteur Céline Lamy, qui est pédopsychiatre à l'hôpital de Saint-Jérôme et auteur du livre, on dit autrice maintenant, « Il pleut à la maison », parler de votre santé mentale avec vos enfants. Bonjour, docteur Lamy.
Bonjour, M. Bigra.
Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand on parle de santé mentale, évidemment, tout le monde pense aux histoires d'horreur qu'on voit dans les journaux, etc., de gens dangereux, de schizophrènes, tout ça. Je crois que vous savez qu'une dépression non soignée peut mener à la psychose.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on oublie souvent. On associe souvent la violence ou l'agressivité ou la dangerosité à des pathologies comme la psychose. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'un trouble de l'humeur, notamment une dépression, peut amener effectivement à des gestes auto- ou hétéro-agressifs. On a eu encore divers faits extrêmement dramatiques récemment. Et oui, une dépression non traitée ou mal traitée peut amener à des gestes, y compris vis-à-vis des enfants ou des proches aidants. Donc, c'est quelque chose qu'on oublie extrêmement souvent, oui.
C'est une chose. Par exemple, si dans notre enfance, on a été massacré d'une façon ou d'une autre et qu'on porte cette chose-là toute notre vie, qu'on ne le soigne pas et que, par exemple, se déclenche une rage qui est hors contrôle parce qu'on est en état de délire avancé, on s'en prendra évidemment pas à ceux qui nous ont fait mal. Ils sont très, très loin. On va s'en prendre à ceux qui sont le plus proches, c'est-à-dire ceux qu'on aime.
C'est le cas, effectivement. Puis là, je dirais, même chez des personnes qui n'ont pas vécu de violence pendant leur enfance, la plupart du temps, lorsqu'on parle aussi de problématiques de troubles de personnalité, les proches aidants, les enfants, mais les parents également, sont souvent les victimes, je dirais, immédiates de cette violence, qui est souvent une violence impulsive, violence froide. Donc oui, effectivement, c'est souvent le cas dans des moments de rage.
L'accès aux jeunes en ce moment, est-ce que c'est suffisant l'accès des jeunes pour les soins santé mentale?
C'est très difficile. On a des listes d'attente en pédopsychiatrie pour évaluer nos jeunes patients. Mm-hmm. Mais ce que je discutais tout à l'heure avec votre recherchiste, c'est vraiment l'accès des jeunes adultes à la psy adulte. On a des suivis au long cours d'enfants depuis des années et le transfert de nos patients en psychiatrie adulte est extrêmement difficile, ce qui fait qu'on continue en pédopsychiatrie parfois à suivre des jeunes âgés de plus de 20 ans alors que normalement à 18 ans ça s'arrête, mais les transferts sont extrêmement longs. Alors je sais que les équipes de psychiatrie adulte font un travail formidable pour essayer de diminuer les listes d'attente, mais c'est très 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 difficile d'organiser ces transferts, ce qui fait que on a des parents en détresse qui nous disent, mais après 18 ans, qu'est-ce qui va se passer pour mon jeune? Est-ce qu'il va se retrouver dans un bris de service, dans
question.
Un trou de service? Et c'est effrayant. J'ai eu, lors de la sortie de mon livre, des parents qui me contactaient en disant, mais qui dois-je appeler si mon jeune va mal, s'isole? Comment faire pour l'obliger à avoir une évaluation psychiatrique, l'obliger à avoir des soins? Parce que oui, à partir de 18 ans, un patient peut refuser les soins, peut refuser de prendre sa médication. Puis c'est vraiment le gros problème actuellement.
Là, on parle d'une balance avec la loi. On parle de charte des droits, évidemment, parce qu'on ne peut pas enfermer les gens contre leur gré comme ça, comme on le veut.
Non.
Je comprends qu'on doit faire une balance. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que dans le cas, par exemple, de violence ou de tentative de violence envers soi-même, c'est-à-dire une tentative de suicide, tout ce qui se termine en ID, là, on va prendre la personne malade, à l'hôpital, mais c'est pas ça une hospitalisation. Une hospitalisation, c'est pas l'urgence, puis il ressort le lendemain matin avec une pilule. L'hospitalisation, c'est quand on réussit à le garder pour un séjour plus prolongé à l'hôpital, où là, on peut diagnostiquer tous les tenants et aboutissants par des spécialistes, parce que le spécialiste, s'il a pas le temps de voir son malade, il comprendra pas. La maladie mentale, c'est pas un rhume. C'est plus complexe, puis c'est une maladie très humaine. Ça prend des humains aussi pour décortiquer ça. Là, ce que je vois, c'est que les listes d'attente sont de plus en plus longues, mais quand c'est des états qui sont urgents en santé mentale, on ne peut pas attendre. Il doit arriver des drames dans ce trou-là, là, dans cette période-là. Là.
Malheureusement, oui, parce que vous me disiez prendre le patient à l'hôpital, mais déjà, c'est difficile d'amener un patient, un jeune adulte, l'amener à l'urgence ou l'amener pour une évaluation psychiatrique, c'est un défi. Imaginez un jeune adulte d'une vingtaine d'années isolé dans son sous-sol avec des propos délirants et sa maman ou son papa qui lui dit un matin « Écoute, je t'emmène voir un psychiatre » ou « On part à l'urgence ». La majorité des parents sont dans une impuissance totale, le fait même...
On appelle ça des patients réfractaires, je crois.
Ah oui, mais je dirais que la plupart des jeunes entre 17 et 35 ans qui sont dans des émergences de troubles psychiatriques graves sont, je dirais, notre population la plus à risque de développer des troubles graves, notamment de type schizophrénique. Et l'accès aux soins pour eux est très difficile parce que ça prend de pouvoir les amener voir un psychiatre et c'est déjà là tout l'enjeu. C'est sûr qu'une fois le patient à l'hôpital, on a, en cas de danger immédiat, la possibilité pendant 72 heures de le garder sans consentement et sans autorisation du tribunal. Mais ensuite, ça prend une ordonnance d'un tribunal, ça prend deux évaluations de psychiatre et puis le tribunal peut lui-même me dire « ben non, moi je libère ce patient ». Donc ça prend effectivement, je dirais, un protocole extrêmement complexe. Mais l'enjeu...
Parce que le juge, lui, va examiner la loi.
Oui,
il ne peut pas examiner le patient, c'est pas un psychiatre.
Exactement. En général, effectivement, on a des gros arguments. Donc, la plupart du temps, les juges suivent notre demande. Mais il arrive parfois que le juge puisse aller à l'encontre de notre demande. Mais je dirais, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir amener le patient à l'urgence. Et c'est très, très, très difficile. Appeler les forces de l'ordre, faire le 911, oui. Mais là encore, ils n'interviennent pas tout le temps.
On l'a vu dernièrement avec un cas atroce où les policiers ne trouvaient pas qu'il y avait de danger. Et puis, évidemment, là, ils se sentent mal parce que ça a très, très, très mal tourné. Mais
prend une expertise quand ils interviennent à la maison. Je le vois même lorsqu'ils interviennent auprès d'enfants. C'est plus facile lorsqu'ils interviennent auprès d'adolescents en crise. La majorité du temps, ils arrivent à l'amener à l'urgence. Mais pour un adulte, c'est extrêmement difficile. Puis parfois, le trouble clinique est extrêmement fin. Le patient est délirant à bas bruit. Et puis, c'est pas le métier du policier de faire une évaluation psychiatrique. Donc oui, parfois, il va laisser le jeune adulte qui va avoir les arguments ou les bons mots pour faire en sorte que la police s'en aille. Et c'est comme ça qu'arrivent effectivement des drames comme les drames récents.
On parle beaucoup des relations des policiers puis entre les jeunes de rue. Puis les policiers disent, voyons, on n'est pas travailleurs sociaux, nous. Alors, il s'est créé à Montréal une escouade qui s'appelle l'escouade Emery. C'est un travailleur social avec un policier. Donc, ils peuvent intervenir auprès de quelqu'un en crise. Le policier sait si jamais ça tourne à la violence. Et le travailleur social, lui, sait comment prendre le jeune et peut négocier avec et en même temps est protégé par le policier. Là, je trouve qu'on a le meilleur des deux mondes. Mais évidemment, on a une escouade, ça en prendrait 300 au Québec, des escouades comme ça, minimum. Est-ce qu'on pourrait retrouver, quand on va trouver des policiers en disant « j'ai peur de mon fils, là, il s'en vient délirant, il joue avec des couteaux », est-ce qu'on pourrait éventuellement imaginer dans les postes de police au moins un travailleur social ou quelqu'un qui est plus formé à la santé mentale? Justement, pour répondre à ça, le policier dirait « bon, ben là, il y a un cas, là, moi je suis policier, là, je suis pas certain de comprendre ça ». Et là, on fait intervenir la personne. Est-ce que ça serait une bonne chose? Parce que là, on s'en va vers de la détresse là, dans le COVID.
Ce serait idéal, mais je pense pas que ce soit réaliste. Je pense qu'on arrive à un point dans notre société où, oui, il va falloir qu'on soit un petit peu polyvalent et que, oui, dans la formation des policiers, il y a une sensibilisation particulière à la question de la santé mentale sans qu'ils deviennent des experts. Mais il y a des signaux d'alarme qui sont, je dirais, assez faciles à repérer dans les attitudes, dans les propos des patients. Imaginer que le policier, comme lorsqu'il remplisse une grille, en cas d'intervention, puisse remplir une grille en disant « ben là, les signaux d'alarme sont là ». On l'emmène à l'urgence. Parce qu'un travailleur social dans un poste de police en permanent, je ne sais pas si c'est très, très, très réaliste, ce serait l'idéal. Ce serait vraiment l'idéal. Mais on parle des policiers, c'est également la même chose dans les écoles. Je pense qu'il va falloir aider nos enseignants qui sont dans une détresse énorme à être dans le repérage de certaines situations parce qu'effectivement, ils sont très, très, très perdus. Puis, ils parlent beaucoup de cette détresse-là. Qu'est-ce que je fais dans certaines situations? J'ai pas la formation.
C'est parce qu'il n'y a pas assez de profs. Alors, avec des classes de 35 élèves, ils ont juste le temps de donner la matière. Puis, qu'est-ce que vous pensez? Les enfants
d'accord.
qui souffrent sont devant eux. Et ils les
Exactement.
Voient. Et il y a beaucoup de profs qui subissent beaucoup de... je crois que les psychiatres en souffrent aussi à l'occasion. C'est de l'angoisse de compassion.
Exactement. On est vraiment face à quelque chose de très difficile, puis à une impuissance, parce qu'effectivement, là, vous parlez des psychiatres, mais c'est le cas aussi des médecins de famille. Quand on reçoit un enfant qui est en détresse, dans un système familial complexe, souffrant, parfois on signale des situations qui ne sont pas forcément relevées par le DPJ. On sait effectivement que ça prendrait des thérapies familiales. On est face à l'impuissance d'un système où il y a des listes d'attente dans les CLSC, où il y a eu tellement de coupures dans les budgets qu'on a des mois et des mois d'attente pour voir un psychoéducateur ou une psychologue. C'est tout ce système qu'il faudrait effectivement revoir.
Ah, je vais répéter ce que j'ai dit hier. Vous allez me trouver tannant, mais on revient toujours à ça. On essaye de parler de souffrance, on essaye de parler de soins et on se retrouve encore à parler d'argent, de manque d'argent, pour être clair. Docteur Lamy, je vais vous garder avec moi, un.
Oui.
Et puis deux, c'est parce que j'aime beaucoup prendre des appels de nos auditeurs, mais gênez-vous pas, vous répondez à ma place. Quand vous avez une idée, allez-y, coupez-moi, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir.
Ça va.
Alors, on a Caroline au bout du fil. Bonjour, Caroline.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous avez une situation où vous désiriez parler?
Oui, excusez-moi. L'interférence avec la radio. Oui, nous, on a un enfant à besoin particulier. Et puis, on se rend compte des répercussions de la COVID. C'est pas évident dans le sens que normalement, on aurait des suivis. Tout est repoussé. On est en liste d'attente. Tout est repoussé. Que ce soit au niveau des CLSC, que ce soit au niveau de la paperasse du gouvernement, que ce soit au niveau dans toutes sortes de paliers, tout est en attente. Alors que ce soit au niveau du langage, au niveau des rendez-vous neurologiques ou peu importe,
oui.
C'est lourd. Puis c'est lourd aussi pour les familles qui n'ont pas d'assistante non plus. T'sais, maintenant, nous, on est en attente pour une travailleuse sociale. Ça aussi, c'est en attente, mais pendant ce temps-là, nos enfants se désorganisent davantage. Là, nous, les familles, on est patients, on les connaît, nos enfants, mais c'est demandant à un moment donné. Hein?
Je comprends absolument. Merci beaucoup, Caroline, de nous avoir appelé. Docteur Lamy, évidemment, bon, le manque d'argent cause exactement ça, là, entre autres.
Mm-hmm.
Même dans les urgences normales, on peut attendre 15 heures, 18 heures. Comme moi, le mot urgence puis 15 heures, ça va pas ensemble. Logiquement, grammaticalement, ça marche pas. Mais semble-t-il que c'est là-dedans qu'on vit. Puis évidemment, c'est pire en psychiatrie. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est pas juste la détresse dans ce cas-ci de l'enfant qui grimpe de façon exponentielle à force de faire attendre pendant une situation extrêmement angoissante. C'est les parents qui commencent à se désagréger. À un moment donné, ils en peuvent plus, là.
C'est l'inquiétude qu'on a, et puis on a beaucoup sollicité je dirais les gouvernements, les ministères, puis on parle beaucoup entre collègues sur l'émergence post-Covid de plus en plus de drames, que ce soit pour les enfants ou pour les familles, parce que oui, on l'entendait dans le témoignage de Caroline, un confinement avec un enfant ayant des besoins particuliers, on s'entend que il y a une tension familiale, il y a d'autres enfants à s'occuper, et oui, les parents vont nous arriver aussi avec des épuisements, des burn-out, des dépressions. Et on est plus à risque, il faut le dire.
Et qu'il faudra soigner.
De passage à l'acte aussi, de choses extrêmement difficiles. On a parlé beaucoup de la violence conjugale, mais j'entends un petit peu moins en général dans les médias la question de la violence sur les enfants dans ces périodes extrêmement particulière. Donc, oui, on s'attend à une deuxième vague.
Et on devrait beaucoup parler de la violence sur les enfants.
Exactement.
Le docteur Julien, lui, il veut absolument les enfants à l'école parce qu'ils savent qu'il y a des enfants qui sont enfermés avec soit des parents inadéquats qui manquent de moyens, mais des parents violents aussi, des parents agresseurs. Je vais vous garder avec moi. On va faire une petite pause et puis on revient tout de suite après.
À tantôt.